Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
On est Gaming et Politique, on revient pour une nouvelle émission. Cette fois-ci, c'est pas notre créneau habituel, puisque normalement ça aurait dû être le 8 mars, mais le 8 mars c'était occupé pour une émission spéciale 8 mars en fait.
Tout simplement. Aujourd'hui, on est tous les deux, donc avec Alex et moi, Quentin. Adrien n'est pas là.
C'est ça. On pleure énormément. Adrien n'est pas là. Il reviendra la prochaine fois, sûrement. Mais là, il ne pouvait pas cette fois-ci.
Et on lui fait plein de bisous.
Ouais, gros bisous, Adrien. Marie, tu peux lancer le générique ?
Oh shit. Here we go again.
Gaming.
Bandicoot Power.
Et politique.
Do a barrel roll.
Welcome to the jungle.
Gaming et politique.
There are no good gods, boy.
Oui, donc on a prévu deux petites chroniques aujourd'hui avec Quentin. Mm-hmm. À chaque fois, on fait trop long de toute façon, donc on a essayé de faire moins de chroniques maintenant. On essaie de plus parler en moins de chroniques. On commence par toi, Quentin, tu vas nous parler de quoi ?
Donc aujourd'hui, on plonge dans un phénomène omniprésent dans l'univers du jeu vidéo et qui soulève de plus en plus de préoccupations, le gacha. Donc le gacha, c'est un modèle économique particulièrement répandu dans les jeux mobiles et certains jeux en ligne qui repose sur l'achat de lootbox, donc coffres de contenu, comme tu nous parlais la dernière fois.
De free-to-play.
Ouais, exactement.
Ouais. De coffres de contenu, genre pour avoir du contenu en plus sur le jeu, c'est ça ?
C'est ça. C'est que ce soit en skin, en personnage, en décor.
Donc skin, pour rappeler, skin, c'est
les visuels de tes personnages.
Ouais, les vêtements ou les décorations.
Par exemple, sur un jeu DC Comics, ce serait t'as soit Batman habillé en Batman, soit Batman en Bruce Wayne. Ce serait deux skins différents un même personnage, quoi.
C'est ça.
Donc c'est un modèle économique qui repose sur l'achat de lootbox ou de cristaux virtuels, donc la même chose, qui permettent d'obtenir de manière aléatoire, donc comme on disait, des personnages, des objets, des améliorations, des apparences. Derrière son apparence ludique, il cache un système redoutablement efficace qui exploite le mécanisme de la récompense aléatoire. Mais derrière cette façade divertissante se cachent aussi des pratiques d'exploitation à échelle industrielle. Alors, comment fonctionne ce modèle ? Tout d'abord, le gacha, le mot vient du japonais. Donc gacha, c'est comme ça qu'ils appellent Intermarché, les petites machines à boules où tu mets deux balles et t'as une figurine Dragon Ball dedans. Et bien ça s'appelle un gacha au Japon.
Okay.
Et l'objet qui en sort, ça s'appelle aussi un gacha. C'est, c'est un mot pour appeler les deux supports.
C'est un peu genre un truc pour t'avoir, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça fait un peu gacha.
Ouais, je t'ai eu, gacha.
Donc le gacha repose sur des techniques psychologiques bien rodées pour inciter les joueuses à dépenser toujours plus. Il utilise notamment le renforcement intermittent, une mécanique bien connue des casinos. La récompense est aléatoire, mais elle peut tomber à tout moment, ce qui encourage à retenter sa chance encore et encore. C'est un système qui manipule l'illusion du contrôle en donnant aux joueuses l'impression qu'elles peuvent obtenir la récompense espérée si le nombre de tentatives est suffisant.
Mais c'est à chaque fois, les gachas, c'est que des trucs de hasard ?
Oui, c'est que des trucs de hasard, effectivement. Mais les lootbox en sont.
D'accord.
T'as une chance sur tant d'avoir tel objet ou...
D'accord, ok. C'est pas genre, je vois ce truc, ce skin-là, cette arme-là, je veux acheter cette arme.
Non.
C'est potentiellement, je vais payer un coffre.
C'est ça qui a X% de chance de me débloquer ce skin que je voulais de base.
Un micro loto, quoi.
C'est ça, c'est un peu comme les cartes Pokémon. Les cartes Pokémon sont une loot box en soi.
Ok, d'accord. Ok.
Donc ça exploite ce système de pur hasard qu'on retrouve également dans les casinos. Ces techniques donc inspirées par les jeux d'argent sont pensées pour maximiser la rétention des personnes et les inciter à dépenser toujours plus, souvent sous couvert d'un gameplay entre guillemets gratuit. Mais à quel prix ? Les joueurs se retrouvent dans une spirale de dépenses et d'espoir déçus qui peuvent mener à l'addiction.
Petite question, pardon, mais les gachas, c'est que des jeux mobiles ?
Ça peut se retrouver en ligne également. On peut penser à, par exemple, des jeux comme Overwatch, le premier Overwatch, où ils nous mettaient 1 million de loot box.
Okay.
Ça nous aidait pas forcément dans la progression du jeu, mais en tout cas, ça activait en nous et en moi le premier une envie d'avoir plein de skins tout le temps.
Sur PUBG aussi, je pense.
Oui, c'est ça. Bah, sur énormément de jeux, sur LOL. C'est vraiment un vrai modèle économique. qui sert à financer les jeux.
Mais tout, enfin, ces jeux-là, c'est, ça repose pas que sur les gachas, c'est aussi d'autres ventes.
Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est le gacha est un jeu qui n'utilise que cette fonctionnalité. Ouais, ouais, c'est ça, que ce modèle économique. Et ensuite, il y a des systèmes de loot box qui permettent de financer les jeux aussi, okay, mais où ce n'est pas la principale action du jeu.
Oui, c'est ça. Ok.
Ça, on peut penser à des jeux comme, j'en parle ensuite, mais comme Summoner's War, donc un jeu mobile qui repose purement là-dessus, où il y a, c'est un jeu où il y a, t'as des milliers, dizaines de milliers de personnages jouables et où que tu débloques en ouvrant des loot box.
Ok.
Sauf que t'as une infime pourcentage de chance d'avoir un bon personnage et donc faut en ouvrir énormément et du coup mettre de l'argent pour en ouvrir plus, okay, etc., etc. Et on peut se retrouver dans des boucles infinies de t'as mis 100 balles mais t'as pas eu le bon perso, mais t'as une nouvelle promotion parce que t'as mis 100 balles et du coup tu remets 100 balles et en fait t'as toujours pas eu le bon perso, tu vois.
Ouais.
Et genre une boucle.
Ce qui est fou parce qu'en fait rien que les jeux d'argent c'est déjà assez fou parce que t'as un petit pourcentage de chance, mais mm-hmm, c'est pour gagner de l'argent,
ouais,
alors qu'en fait là c'est même pas pour gagner de l'argent, c'est oui, pour peut-être gagner des skins, quoi.
Ouais, c'est ça. Des skins dans le cas d'Overwatch et de l'expérience de jeu aussi dans le cas de Summoner War où tu débloques un personnage jouable
que tu pourras jouer avec ton rapport autrement. Oui, okay.
Mais bon, ça reste compliqué à expliquer des centaines d'euros, voire des milliers pour avoir ce personnage-là. Quoi.
Oui, bien sûr.
Donc, les jeux gacha exploitent un cycle bien connu, donc la frustration, espoir et récompense. L'aléatoire crée une tension constante et l'échec répété à obtenir un objet ou un personnage rare génère une forte frustration, comme on disait. Cette sensation est exacerbée par la collectionnite aiguë, encouragé par des personnages variés et au niveau de rareté différent. Mmh. En parallèle, les événements temporaires et les défis de plus en plus exigeants forcent les joueuses à investir toujours plus pour suivre le rythme.
Ça, les événements temporaires, on se fait avoir, tout le monde se fait avoir par ça. Hein.
Ah oui, clairement. Ouais. Ouais, alors, ouais.
Ah, demain, exceptionnellement, il y a dans le jeu, tu peux débloquer le truc ou machin. Si
oui, c'est veux. Ça, t'as une semaine, genre typiquement là sur le jeu de cartes Pokémon sur appli.
Je fais exprès, ouais, de pas télécharger, soit,
ouais,
tu y joues.
Ouais, j'y joue un peu trop. et oui, il y a tout le temps des nouveaux trucs qui servent à rien en plus, mais où du coup ça te force à passer du temps sur le jeu et du coup ça te force à. Ça te limite dans ta progression et du coup là t'as la petite icône. Et si tu payais ?
Est-ce que tu as ce truc de, souvent sur les jeux mobiles, il y a ce truc de, tu dois jouer tous les jours,
ouais,
pour débloquer des trucs,
ouais,
genre,
ouais,
tant de jours d'affilée où tu as joué, où tu as ouvert l'application, ça te valorise, ça te donne de l'expérience.
Ouais. Bah, l'exemple du jeu Pokémon, c'est vraiment sur le fait de se connecter au jeu, te débloque une quête, voilà, tous les jours. En fait, juste ça, juste le fait d'y aller, ça te donne une partie de quelque chose, quoi.
Ouais.
Donc, il est important de souligner que ce modèle touche souvent des jeunes qui n'ont pas forcément conscience des risques liés à ces pratiques. Cette pression pour obtenir toujours plus peut aller jusqu'à l'endettement chez certaines personnes, ce qui soulève des préoccupations sociétales sur les dangers de cette forme de divertissement.
C'est un peu comme les free-to-play, quoi. C'est un peu ce qu'on disait la dernière fois sur, exactement, les jeux gratuits où tu t'achètes des skins, c'est le même principe avec les gachas, quoi.
Exactement. Les interfaces volontairement complexes et saturées de notifications sont conçues pour pousser à l'achat en mettant en avant ses offres limitées et ses personnages exclusifs. C'est un véritable piège psychologique. Les interfaces de jeux gacha sont souvent volontairement complexes et truffées d'éléments incitant à l'achat. Elles mettent en avant les objets rares et précieux, laissant croire que les récompenses exceptionnelles sont à portée de main. La progression devient rapidement difficile sans achat et les menus présentent ces options comme des solutions simples et immédiates pour avancer. On se retrouve pris au piège de cette fausse promesse de facilité encourageante à dépenser toujours plus.
Mm-mm.
C'est comme on le disait. Un autre levier puissant dans le gacha, c'est le fanservice. En exploitant l'attachement émotionnel des joueuses à une franchise ou à des personnages emblématiques, les développeurs poussent à la consommation. Des jeux comme, je le disais, comme Summoner's War, mettent en avant des personnages conçus pour séduire des publics variés, rendant leur acquisition presque irrésistible, notamment grâce à des collaborations avec d'autres licences déjà existantes et appréciées, comme la série télé adaptée du roman, donc The Witcher.
Ils ont
fait une collab avec The Witcher, où tu pouvais vraiment débloquer donc Gérald de Rive, le personnage principal, et jouer avec ensuite. Tu avais une collaboration également avec la licence Assassin's Creed et avec le manga Demon Slayer. C'est ça. Et sauf que du coup, tu as un petit pourcentage de chance d'avoir ces personnages-là parmi tous les autres personnages également. Du coup, et c'est à durée limitée. Donc si tu veux l'intégralité des personnages, il faut payer, quoi.
Bien
sûr. C'est pas possible seulement en jouant. Même en économisant longtemps, ce n'est pas possible. À un moment, pour sauf extrêmement de chance, mais bon, faut pas compter là-dessus. Faut payer, quoi.
Ouais.
Mais c'est pas tout. Une partie du succès du gacha repose aussi sur la sexualisation des personnages. Les tenues subjectives et les animations mettant en avant l'attrait physique des personnages ne sont pas là par hasard. Les développeurs et les développeuses jouent sur ça pour encourager les joueuses à dépenser davantage. C'est typiquement sur Summoner War ou d'autres jeux gacha, il y a vraiment une sexualisation méga forte des personnages et on est sur un jeu où les personnages sont dits chibi, donc un peu de manière enfantine.
Ah oui,
c'est un peu glauque. Enfin, c'est des personnages un peu japonais.
Ouais.
Ouais, c'est ça, avec grosse tête, gros yeux, mais petit corps. Où, c'est vraiment, il y a un délire un peu bizarre autour de ça. Et,
ouais, très malsain et s'approche à des trucs de pédocriminalité, quoi.
Ouais, on flirte avec et le Japon flirte avec un peu trop souvent. Enfin, en tout cas, la culture japonaise en matière de visuel manga, il flirte un peu trop souvent. Ouais,
ouais, carrément.
Donc cela soulève évidemment des questions sur la place de la femme et de la sexualité dans ces univers, souvent réduits à un simple levier économique. Cela nourrit des stéréotypes et exacerbe les rapports de pouvoir dans l'industrie du jeu vidéo.
Dans les gachas, mais pas que, enfin de partout, ah bah oui, dans
évidemment,
tous les jeux,
évidemment.
Globalement.
C'est ça. Et là, il y a le truc en plus de « faut payer pour les avoir,
en plus,
pour les débloquer ».
En plus, tu payes pour avoir des persos sexy, quoi.
Ouais, voilà.
Oh, d'ailleurs, ouais. Pardon,
vas-y.
Je peux faire une parenthèse. De toute façon, on n'est que deux cette fois-ci, donc on a plus le temps, normalement, je regarde la régie. J'ai découvert, par hasard, et c'est j'ai un univers, c'est-à-dire les jeux vidéo porno.
Ouais.
J'ai pas joué encore, j'ai pas testé, mais c'est un univers qui s'est ouvert à moi. Je pense que je ferai une grosse chronique là-dessus parce que vraiment j'étais hallucinée de voir tout ce qu'il y avait, le nombre de joueuses aussi, mm-hmm. parce que vraiment enfin, j'avais jamais pensé à ça, j'avais jamais étudié le truc. Non, pas du tout.
Tu savais pas du tout que ça existait.
Ah non. Okay, enfin, j'avais pas pensé
aux consciences. Ouais.
Voilà, j'avais okay. pas, j'avais, je m'étais sûrement déjà dit, ah oui, ça doit exister ce genre de truc, mais j'avais pas du tout conscience de l'ampleur du machin. Et du coup, je me suis perdue sur Steam. Steam, c'est la plateforme de jeu.
Oui, qui héberge les jeux, ouais, pour pouvoir y jouer.
Pour la plupart des gens, on part sur Steam, quoi. Et j'ai regardé, et là, j'ai découvert un univers incroyable, ouais. qui a l'air horrible, par contre, parce que ouais. c'est bah, que du stéréotypé, full stéréotypé,
ah oui,
horrible.
C'est full problématique.
Affreux. Et voilà, et je me suis dit, mais... Oh, et j'étais vraiment, genre, je hurlais derrière mon écran d'hallucination, tu vois. Vraiment, oh mon Dieu, comment j'ai pu passer à côté de ça pendant tant d'années.
C'est vraiment un gamin, je pense, vers 10 ans, où j'étais tout le temps sur Absolute Flash, du coup, un site en ligne qui mettait des jeux gratuits en ligne, et il y avait une catégorie porno, et... Enfin, 10 ans, j'avais accès à ça.
Ah ouais,
bizarre.
T'avais accès
ouais,
à ça
ouais, et jouais à certains jeux. Il y avait un jeu RPG qui était assez bien fait.
porno,
du coup, mais...
Ouais, du coup,
oui, c'est une dinguerie. De toute façon, c'est un peu facile de dire ça, mais la pornographie est un milieu où il y a beaucoup d'argent et qui investissent beaucoup dans, enfin, que ce soit la VR ou le jeu vidéo.
Mais attends, mais du coup, je me suis dit, mais une industrie du jeu vidéo qui est énorme et l'industrie du porno qui est énorme,
ouais.
les deux mixés ensemble, mais c'est genre un monde de
ouais,
fou, quoi, en fait.
Ouais,
enfin,
de fou. Et il y a même des jeux qui couplent, du coup, enfin, jeux vidéo qui couplent VR. Et avec jeux porno.
Ouais,
Il y a des images méga glow sur internet de, du coup, souvent des joueurs qui jouent à ces jeux et qui, enfin, de l'extérieur, ils miment vraiment une action sexuelle.
Oui, bah oui. Ouais, ouais. Non, genre, mais c'est fou. C'est
assez,
fou.
Ouais.
Je ferai une chronique là-dessus parce Allez, que je pense que ça sera
bien.
Super bien.
Et donc, pour continuer sur les gachas, c'est également une industrie qui brasse des milliards. Donc le gacha, c'est pas une simple mécanique secondaire dans l'industrie du jeu vidéo, c'est un modèle économique central pour des géants comme miHoYo avec Genshin Impact, donc un jeu du type Summoner's War, qui a généré plus de 4 milliards de dollars en moins de 3 ans. Ou encore Fate Grand Order, dont les revenus ont dépassé les 6 milliards de dollars depuis son lancement. Ces sommes colossales viennent d'une base solide de joueuses souvent jeunes, comme je le disais, qui, faute d'éducation financière, se laissent entraîner dans une spirale de dépenses. D'après une étude de Juniper Research, les revenus issus des lootbox et du gacha atteignent pour uniquement le mois de février 2025 plus de 571 millions de dollars. C'est une manne financière gigantesque qui explique pourquoi tant d'éditeurs intègrent ces mécaniques à leur jeu, et ce, malgré les critiques. Donc face à ces pratiques controversées, certains pays ont pris des mesures. Par exemple, la Belgique a interdit complètement les lootbox en les assimilant à des jeux d'argent, contraignant certains éditeurs et éditrices à retirer ces fonctionnalités de leur jeu.
C'est bien ça.
Ouais, donc complètement en Belgique, on ne peut plus. Enfin, Summoner War, du coup, n'existe pas en
ah
Belgique.
Ouais.
Ou par exemple sur FIFA, où il y a les jeux FIFA, donc les jeux de foot, il y a un mode qui s'appelle FUT, FUT, où il y a un système de lootbox où tu vas débloquer des joueurs. Donc,
okay.
Et en fait, c'est du coup en Belgique, ça n'existe plus.
Je me demande juste comment ils font pour réglementer, enfin pour faire que ça n'existe pas. Mais...
Bah, sinon, le jeu n'est pas commercialisé. Et du
okay.
coup, j'imagine que les éditeurs sont obligés de s'adapter et vendre ces jeux sans ces pratiques. Quoi.
Mais bon, j'imagine qu'avec un VPN, si tu passes par Internet,
ah bah oui,
c'est
évidemment,
vite fait, quoi.
Du coup, ouais, clairement. Donc, les Pays-Bas ont également tenté de réguler ces pratiques, bien que les décisions judiciaires oscillent entre interdiction et tolérance. Le Japon, pionnier du gacha, a imposé des régulations plus strictes sur les probabilités d'obtention des objets rares après plusieurs scandales. Ces actions montrent que ce modèle économique pose des problèmes bien au-delà du monde du jeu vidéo, touchant aux enjeux d'éthique et de justice et de protection des consommateurs. Le gacha est bien plus qu'une simple mécanique de jeu. C'est un système conçu pour exploiter les failles psychologiques des joueuses en leur donnant l'illusion du contrôle sur un mécanisme purement aléatoire. Mmh. Derrière l'amusement, c'est une industrie qui prospère sur l'addiction et la frustration. Ce modèle n'est pas isolé. Il reflète un système économique global qui exploite les plus vulnérables. Alors, faut-il réguler plus strictement ces pratiques ? Une chose est sûre, la prochaine fois que j'ouvrirai une lootbox, il vaut mieux que je me pose la question « Qui contrôle vraiment la partie ?»
Mais parce que typiquement tu joues beaucoup aux cartes Pokémon, mais t'as dépensé de l'argent dans...
Ouais, j'ai mis des thunes. Bah déjà il y a typiquement on est en plein dedans, c'est il y a 10 balles d'abonnement du coup par mois qui
ah,
te
ouais.
permet d'avoir un paquet en plus, tu vois.
Ah, oui.
Du coup là okay. en soi techniquement j'ai déjà mis 30 balles.
Oui.
Et ça m'est déjà arrivé de sous des coups de t'es avec tes amis, ça ouvre un peu des paquets et t'es en mode, ouais, je mets 10 balles, tu vois. Et en fait, 10 balles, c'est 10 paquets. Du coup, c'est 50 cartes. C'est
ah oui, oui,
c'est
okay.
ridiculement peu. Et en plus, avec un système d'aléatoire, souvent, t'as mis 10 balles et t'as rien. Et juste acheter 10 balles par terre, quoi.
Mm. Ouais, enfin, ouais.
Parce qu'il y a, avec tout ça, il y a aussi un côté kiffant de vraiment, quand t'as le perso que tu rêvais ou quoi, il y a un pic d'adrénaline, mais ça marche exactement comme les casinos, du coup. C'est vraiment, quand t'as
oui,
l'inné 7, t'es trop heureux, mais il faut aussi regarder les 1000 parties d'avant où t'as rien aligné et où c'est juste catastrophique d'avoir mis autant dedans. Quoi.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, la plupart des gachas, c'est des free-to-play. Du coup, c'est des
ouais.
jeux que t'as gratuitement, t'as
oui,
pas besoin
ça.
De les acheter. Quoi.
Ouais, c'est
j'imagine.
Ça. Bah, du coup, ouais, c'est ça, c'est un peu ça l'hameçon. C'est que
c'est
gratuit,
ouais.
tu joues tranquille. Au début, t'as une progression super rapide en général dans ces jeux. Et en fait, c'est au bout d'une heure ou deux, tu vas vite te retrouver bloqué. En tout cas, pour progresser, bah, faudra attendre une heure. Sauf qu'au début, il va te donner des petits points qui sont normalement payants. Et du coup, pour te faire comprendre que si tu payes avec cette monnaie, l'heure que tu étais censé attendre, elle disparaît.
Mmh.
Et du coup, voilà. Et en fait, ça te fait comprendre très, très vite que payer, c'est la solution. Ouais.
Oui, bien sûr. Ok, trop intéressant. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint entre-temps. C'est Clément qui est ami avec Marie qui est à la régie. On dit à la régie ou à la technique en radio ?
À la régie technique.
à la régie technique, on dit. Et du coup, c'est un ami qui, en fait, est joueur de jeux vidéo, c'est ça ?
Salut. Ouais, c'est ça. Depuis ma tendre enfance.
Ok.
Merci.
Trop bien. Voilà. Bah, du coup, t'as rien préparé, t'as pas de chronique ou quoi que ce soit. Mais on s'est dit, si tu veux, tu peux nous rejoindre. D'ailleurs... Toute personne qui veut nous rejoindre, qui aime bien les jeux vidéo ou pas, mais qui a envie d'en parler, enfin voilà, c'est possible, tant qu'on respecte la charte, c'est-à-dire pas de homophobie, racisme, transphobie,
oui, on lutte contre toute forme de discrimination,
etc., les trucs de wokistes là, tout ça. Et donc vous pouvez participer si vous avez envie, même juste réagir en fait avec nous sur le plateau, c'est cool, nous on aime bien pouvoir discuter.
De fou, ça rentre heureux.
Bah ouais.
Il s'était passé la dernière fois avec une pote à toi.
Ouais, c'est
trop
ça.
Bien.
On se dit, venez quoi, tranquille.
Super.
Du coup, bienvenue.
Merci.
Maintenant, c'est mon tour, c'est à ma chronique, à moi. Alors, je vais. Je pense que. Enfin, en tout cas, les gamereuses ont vu passer ce truc de Yann Wax là. Yann Wax, qui est une personne très sympa. Qui est un super chroniqueur, globalement.
On est chroniqueur comme Yann Wax. Hein.
Encore un chroniqueur horrible qui s'est fait connaître par Laurent
Ruquier.
Ouais. Merci au Laurent Ruquier.
Ouais.
Normalement, on a le petit extrait de ce qu'il a dit. Est-ce que Marie, ça te va de le passer ? Allez, let's go.
entre le mal-être des enfants, qui d'ailleurs sont enfants jusqu'à l'âge de 25 ans, hein, et l'accoutumance à ces jeux complètement abêtissants, débilitants, que les parents fréquentent également. Oui. Parce que le nombre de demeurés adultes qui jouent à... J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Mm. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Je vais encore avoir des menaces sur Internet. Aucun respect.
Je te confirme.
Il y a des choses plus intelligentes à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son être même, que d'aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et des serial killers.
Non, mais si ça va, des singes et des bananes, non, ça va, ça fait du bien.
C'est un terme générique pour dire que même si c'est des jeux de guerre, des trucs, oui, des serial killers... Vous êtes des abrutis, vous comprenez ça ?
Merci, Yann Wax.
Ouais, merci. Ça fait combien de temps que vous êtes des serial killers, vous ? Moi, ça fait que 3 ans, là, 4 cette année.
Franchement, trop sympa. Moi, j'avais trop... Au départ, j'ai entendu ça et après, j'étais en mode... toi d'abord, en fait, Yann Wax. C'est qui, abruti ? Toi, l'abruti, en fait. Arrête de dire des trucs comme ça. Et après, je me suis rappelé que c'était Yann Wax, en fait. Que du coup, c'est vrai que... Ben,
c'est rassurant.
Bah, c'est rassurant. Bah, c'est ça, en fait. Je me suis dit, mais en fait, je me vexe. Mais c'est Yann Wax. Enfin, tranquille, vraiment. Et du coup, j'ai presque, ça m'a conforté dans mon truc. J'ai failli acheter un abonnement sur WoW, du coup. Ah, ouais. On y va à fond, là. Putain, il dit que c'est des abrutis, mais attends. Ah,
j'ai
mais
failli acheter la bibliographie de Yann Wax.
Non, mais j'étais en mode, mais je retourne à fond, là. Je vais acheter plein de jeux sur Steam. Je vais faire plus que ça de ma vie, uniquement. Oui, parce que du coup, on ne va pas rentrer dans les détails sur Yann Wax, parce que c'était un petit prétexte pour introduire la chronique, mais on rappelle que c'est une personne horrible. Quoi. Enfin, genre, le gars, il a dit qu'il n'était pas attiré par les femmes de plus de 50 ans. Il sort qu'avec des femmes de 25 ans, ouais, maximum, et elles sont quasiment toutes d'origine asiatique. Petit truc d'exotisation là, raciste.
Récemment, il y a eu les offs de son voyage en Corée, ouais, avec Depardieu. On voit que la personne horrible qu'il est...
Ah, c'est... abominable. Il est accusé d'antisémitisme, de racisme, de misogynie, d'énormément de choses. Yann Wax, c'est une personne vraiment... Et en plus, c'est une personne qui veut juste faire du buzz pour exister, parce que c'est sa seule manière de faire de l'argent, c'est de faire du buzz. Et je pense que même cette phrase qu'il a dite, c'était pour qu'on en reparle. Et nous, du coup, là, je suis en train de favoriser son truc-là. Ça a marché, parce qu'on en parle, finalement. Mince, j'aurais pas dû commencer ma chronique comme ça, du coup. Bon, bref. Non, mais ça m'a fait penser à... Ok, c'est vrai que c'est un discours... Il dit ça pour le buzz, mais je pense que c'est globalement un truc... qui a entendu ce truc de les jeux vidéo, c'est pas intelligent, c'est pas une forme d'art, c'est pas un truc,
ça reste un moyen, enfin un produit ludique,
voilà, c'est juste un divertissement, c'est juste un divertissement, alors que bon, je pense que vous le savez, mais c'est considéré comme un art maintenant. Vous savez le combien-tième art, les jeux vidéo?
Je crois que c'est 7 ou 8, non,
9e. Non, le 7e, c'est le cinéma. Ah, oui. Donc non,
c'est le 9e.
Non.
Dixième,
c'est le dixième art. Alors du coup, petite question culture générale.
Vas-y.
Quels sont les arts?
Sculpture. On fait un chacun.
Oh, peinture.
Alors peinture, t'as dit... Attends, qui a dit quoi?
Moi j'ai dit sculpture.
Sculpture, c'est le combienième, tu penses?
C'est pas genre 2 ou 3.
Le deuxième art, okay. Ouais.
Le premier, bah... Peinture, c'est pas le premier?
Non, c'est pas le premier.
C'est pas genre le théâtre, enfin la...
Non, le spectacle, art de la scène.
Art de la scène.
Non, c'est le sixième, les arts de la scène.
Par quoi on commence?
Je vous dis, la peinture, c'est art visuel, donc ouais, c'est peinture, dessin, photographie, graphisme, gravure, blablabla. C'est le troisième art.
Ok, il y a architecture?
Architecture, c'est le premier.
Ok. Ah.
Voilà, premier art, architecture. Deuxième, la sculpture, art visuel, troisième. Ouais. Art de la scène, sixième. Quatrième et cinquième, vous pensez que c'est quoi?
Il y a...
Un que Yann Wax, à mon avis, il fait que parler de ça, d'ailleurs.
Ah,
Le cinquième.
La littérature.
La littérature, bien sûr.
Il y a la photographie, à un moment ou pas?
Bah, la photographie, je pense que c'est dans art visuel. Hein.
Ouais.
Oui, c'est dans art visuel, dans le troisième.
Il n'y a pas la bande dessinée?
Si, la bande dessinée, mais c'est le neuvième.
Après.
Ouais.
Ça, il y a cinéma, du coup.
Ouais, cinéma, c'est le septième. Du coup, il nous manque le quatrième. Tout simplement, un truc qui se passe dans les oreilles, quoi.
Ah bah oui, la musique,
ouais. C'est ça. Le huitième, c'est les arts médiatiques qui regroupent la radio et la télévision, ce qu'on est en train de faire, finalement.
Et les séries télé, etc.
C'est ça, la télé, ouais. Et le dixième, les jeux vidéo et le multimédia. Donc, c'est pas que les jeux vidéo, c'est aussi l'ensemble des créations artistiques utilisant un support numérique. Du coup, il y a infographie, web design, pixel art, jeux vidéo, vidging ou récit numérique. Les trucs, voilà. C'est tout ce qui est en fait support numérique et choses un peu.
C'est pas bête d'y regrouper. Enfin, ouais, c'est pas bête. Il y a une notion. Ça pourrait se diviser derrière, mais.
Ouais, c'est bah oui. Mais un peu comme tous les autres trucs, tu vois, les arts visuels aussi, tu te dis. Bah,
ouais, la photo et la peinture, c'est pas pareil.
Voilà, c'est ça. Bon, on comprend, voilà. Mais de toute façon, c'est un peu genre qui fait ses classements, on se dit, mais qui...
voilà. J'avais posé la question, qui fait ses classements?
Qui fait ses classements? Mais c'est ce que je me suis dit, en fait. Je me suis dit, mais qui est-ce qui a dit.
Il n'y a pas une compile un peu de les 5 premiers, genre, c'est Platon et le reste, ça s'est ajouté petit à petit.
C'est ça, exactement. En fait, il y a eu tout plein de classifications différentes. Évidemment, c'est très. Européen péano-centré, ouais. Très, enfin voilà, c'est et du coup ça part au départ de ouais, des classements dans l'Antiquité, 5 arts, et ensuite on en rajoute un 6e, puis un 7e, etc. Puis c'est devenu maintenant des trucs de plutôt culture populaire de se dire ça. Et là apparemment c'est le ministère de la Culture en France en tout cas qui a décidé en 2006 de reconnaître le jeu vidéo comme la 10e forme, enfin en tout cas comme une forme d'expression artistique, comme une forme d'art.
Okay.
Et depuis 2011, la Cour suprême des États-Unis, pour le coup, reconnaît officiellement les jeux vidéo comme un art. Donc, y a, c'est des trucs institutionnels quoi, qui reconnaissent. Mais j'imagine que c'est parce que ça passe d'abord par des trucs culturels, tu vois, qui vont dire.
Ouais, ça s'impose de lui-même un peu. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, c'est ça. Le droit est toujours en retard par rapport à la réalité, mais ouais. C'est normal.
Oui, c'est ça. Mais pour dire à quel point, en vrai, en France, on est censé reconnaître ça, du coup, depuis un moment, genre de 2006. Maintenant, là, depuis peu, depuis 2019, on peut télécharger des jeux vidéo avec le Pass Culture. Le Pass Culture, c'est le truc des jeunes, là, les jeunes. Les jeunes, de nos jours. Ouais. Ils ont un budget de 300 euros, du coup, pour favoriser l'accès à la culture, pour les musées, pour plein de trucs. Et apparemment, ils peuvent télécharger des jeux vidéo avec, mais sous... évidemment des conditions, il faut que l'éditeur soit français et que le jeu ne représente aucune scène de violence ou à caractère pornographique.
Ok.
Okay.
Ça dit un truc intéressant sur c'est quoi la culture. La culture, du coup, c'est sans violence aussi. Ouais. J'y reviendrai
et
après.
Et surtout que le Pass Culture, c'est à 18 ans. Du coup, ils sont censés être majeurs.
Ah ouais, c'est à 18 ans, oui. Je crois. Oui. Hein. C'est pas pour les lycéens aussi? Non.
Bah lycée du coup t'as en année terminale c'est en théorie l'année de tes 18 ans.
Ouais, mais je pensais que c'était à 16 du coup le Pass Culture, mais peut-être
je vais
pas.
Vas-y,
check. On fact-check.
Mais oui, du coup, ça dit beaucoup que ce soit sans violence, ça veut rien dire. Enfin, oui. Du coup, je peux acheter un livre qui parle de guerre, oui, ça pose ça. Pas de souci pour le Pass Culture.
Quoi. Exactement, puis les peintures, et puis c'est quoi en fait? Pourquoi Bon, de toute façon, c'est pareil, j'arrête pas de spoiler mes idées de chronique, mais je ferai une chronique. Même, je pense qu'on pourrait faire une émission spéciale, jeux vidéo et violence. Parce que ça, c'est ce qui fait le plus polémique dans le monde de politique et du jeu vidéo. Quoi. C'est ce truc-là de « on veut interdire parce que violence, parce que machin ». Bref. En tout cas, c'est sûr que l'idée que le jeu vidéo est un art, ce n'est pas une idée qui est communément admise, même si c'est reconnu par l'État depuis 2006 comme tel, bah, ce n'est pas du tout reconnu par les gens comme tel. Il y a eu un sondage qui a été fait par... Bah, je crois que le ministère de la Culture, ouais, c'est ça, par le ministère de la Culture qui est paru il y a quelques années, en 2017, je crois, qui a été faite auprès d'un échantillon de plus de 1500 personnes en France de plus de 15 ans. Et ça montrait que seuls 7% des Français considéraient que le jeu vidéo est un objet culturel. 7% des Français. Je trouve que c'est très peu, moi.
Ah ouais, très peu. Ouais. Ouais, moi aussi, je trouve.
J'avoue, j'ai pas la stat du nombre de personnes qui jouent, mais du coup,
il y en a plein qui jouent. La moitié des gens.
Ouais, c'est ça. Du coup, plein de gens, enfin, ouais, c'est ça, jouent de manière purement divertissante aux jeux vidéo.
Ils considèrent pas eux-mêmes que c'est un art, quoi. C'est ça. Et juste, dans ce sondage-là, ils posaient la question aussi pour d'autres objets culturels, comme les musées. Les gens ont dit que 84% des gens ont dit que les musées étaient un objet culturel, 58% des gens ont dit que la presse était un objet culturel, le cirque, c'est 36% des gens qui pensaient que c'était un objet culturel, la danse entre amis, 21% des gens ont dit oui, c'est un objet culturel. Attention. Non mais attends, la chasse et la pêche, 15% des gens ont dit que c'était un objet culturel. Ah ouais. Il y a plus de gens qui pensent que la chasse et la pêche, c'est de l'art. Enfin, un objet culturel, de l'art, bon, bref. Plutôt que les jeux... Et 7% des gens pour les jeux vidéo.
Non, mais il y a un peu un truc de... Ouais, c'est culturel, en mode... Je sais pas, peut-être ils se sont dit c'est culturellement français de faire la chasse.
Ah oui, j'avoue, c'est pas très moi.
Ouais, tu vois.
Non, j'avoue, mais quand même, c'est fou, quoi. Chasse et pêche, 15%, 7% jeux vidéo, enfin ça me...
Alors qu'il y a des jeux vidéo de chasse et pêche.
J'avoue, c'est trop bizarre. J'avoue, n'importe quoi, ils sont fous. Non, mais c'est un peu... Bon, bref, c'est un peu aberrant, je trouve, parce que quand même, le jeu vidéo, pour moi, c'est... C'est une. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est vraiment une forme d'art, même la forme d'art un peu totale et parfaite, mais j'idéalise peut-être un petit peu le truc.
Et juste pour le pass culture, du coup, c'est entre 15 et 21 ans.
Ah oui, voilà, ouais. Du coup, c'est à partir du lycée, je pense, à
ouais,
peu près.
Ça, ouais, c'est ça. Mais bon, du coup, au bout d'un moment, t'es majeur, quoi. Oui, j'aurais fait que ça.
J'aurais fait que ça, ton jeu vidéo.
Donc. J'aurais acheté tous les One Piece.
Du coup, c'est pas très français.
Ouais, c'est produit par Glénat, une boîte française.
Bon, en tout cas, du coup, c'est pour dire à quel point c'est déconsidéré, je pense, comme la BD il y a 20 ans, quoi, même si c'est toujours déconsidéré la BD, mais ça a quand même évolué. Depuis qu'il y a aussi le festival d'Angoulême, c'est devenu un truc de « ok, il y a un festival avec des gens qui sont nanani, nanana ».
Et encore, pareil, dans la BD, il y a de la distinction, il y en a, ils ne lisent pas des BD, ils lisent des romans graphiques.
Oui, c'est vrai, il y a les romans graphiques.
Oui, c'est dans la BD, du coup, ce n'est pas totalement accepté comme forme d'art, ouais, parce qu'il y a une distinction vraiment…
Ouais, carrément.
Purement élitiste là-dedans, quoi.
C'est ça. Du coup, je suis allée chercher des petites définitions de c'est quoi l'art, même si en fait, après, je me suis dit, non, mais je suis complètement. Ouais, il faut que je fasse trois thèses pour définir ça. C'est pas en une chronique sur gaming et politique.
5000 ans, on se pose la question.
c'est quoi la liberté? Je suis allée chercher sur Wikipédia. Bref. Donc, Larousse, ça dit. Création d'objets ou de mise en scène spécifique destinée à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité plus ou moins lié au plaisir esthétique.
Okay.
Dis, bah, c'est clairement les jeux vidéo, il y en a plein, ça rentre là-dedans, quoi.
Ouais.
Wikipédia, la définition, c'est « L'art est une activité, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait, qui s'adresse délibérément au sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. » Je me suis dit pareil, du coup, clairement, ces jeux vidéo, ça marche très très bien. On peut affirmer que l'art est le propre de l'humain ou toute autre conscience. Ah oui, mais là, c'est des mots un peu compliqués. On peut affirmer que l'art est le propre de l'humain ou de toute autre conscience en tant que découlant d'une intention et que cette activité n'a pas de fonction pratique définie. On considère le terme art par opposition à nature, connue comme puissante, produisant sans réflexion, et à la science, conçue comme pure connaissance indépendante des applications. Bon bref, en gros, pour dire, en gros, c'est pour faire des choses belles, jolies, qui plaisent et qui font des émotions, quoi.
Ouais, c'est ça, et qui est ni naturel, ni dans un truc logique.
C'est
ouais,
ça, exactement. Du coup, les jeux vidéo, clairement, enfin...
Ouais, c'est ça.
Ça rentre là-dedans, à mon sens. Je me suis dit, du coup, pourquoi c'est déconsidéré? Il y a plusieurs hypothèses, et je pense qu'il y a plein de raisons différentes. C'est un art qui est jeune, qui est récent. Il faut que ça soit un vieil art comme la sculpture, je pense, pour que ça soit considéré comme un truc un peu...
Alors que je sais pas si t'en parles après, mais le bien culturel français le plus vendu chaque année, c'est...
Non, vas-y.
Devinez. Ah, du coup, c'est un jeu vidéo.
Le bien culturel français le plus vendu chaque année.
Du coup, tout bien culturel confondu. Vraiment, c'est que ce soit parmi les livres, jeux vidéo, films, n'importe quoi.
Assassin's Creed ?
Non. Un jeu qui sort chaque année.
Un jeu qui sort chaque année.
FIFA.
FIFA, mais oui. Trop drôle. Le bien culturel français le plus vendu chaque année, FIFA.
Ouais.
Ah ouais, c'est
donc,
le top.
Qui est un jeu vidéo.
Ah ouais.
Chaque année depuis 10 piges, là, voire plus.
Ouais, c'est fou.
Ouais.
Donc il y a ça. Est-ce que c'est parce que c'est récent que du coup.
C'est ça, et que est-ce que aussi les personnes qui décident ce qui est de l'art ou pas sont, comme tu dis, trop entre guillemets vieilles pour y jouer et du coup ne sont pas dans leur environnement de divertissement et du coup ne le considèrent pas, quoi.
Ouais, ou sont dans une sphère de type Yann Wax aussi. Hein.
Ouais.
Ouais. C'est aussi peut-être le rapport à la violence. Selon Jean-Michel Guy, je sais pas ce que c'est, mais j'ai vu ça. La violence est incompatible avec le concept de culture. Donc il y a plein de gens qui pensent que la violence est incompatible avec le concept de culture.
Oui, alors que je pense que Yann Moix dit très rapidement l'art de la guerre.
Ouais, c'est ça, exactement. Alors, ce qu'il dit, c'est que le constat est aussi bien valable pour le cinéma d'action ou certaines musiques comme le hip-hop, qui est culturel pour seulement 21% des Français. Donc pour dire, oui, à mon avis...
Il n'y a pas de biais. Hein.
Ouais. Non, il n'y a aucun zéro. Biais. Aucun biais blanc et bourgeois. Ouais, je ne vois pas ça. De quoi vous parlez.
Tout ce que j'aime pas, c'est pas de l'art.
Exactement. Tu voulais dire un truc, je t'ai coupé là.
C'était pour rebondir juste sur la question d'un art jeune aussi. Enfin, la question aussi, si on prend quelques années, plus de centaines d'années plus tôt, le cinéma aussi, art forain à la base,
ouais,
qui
carrément.
Était aussi inconsidéré, enfin, du moins dans les débuts inconsidéré, qu'on disait que souvent le cinéma, ça allait finir, ça n'est jamais évolué et juste être cantonné à un art pour la foule.
Ouais, alors que là, c'est vraiment l'art par excellence, le cinéma. C'est le 7e art, c'est vraiment très... Ouais.
Bah, je reprends Platon, mais qui disait que le théâtre, à l'époque, c'était un truc de merde qui pervertissait la jeunesse.
Ouais.
Genre.
Mmh. Ouais.
Du coup, c'est un peu débat éternel boomer.
Oui. Exactement.
Art émergent, du coup, à quel moment c'est considéré et ancré.
Ouais.
Ouais. Donc, on disait, c'est parce que c'est un art jeune, parce que c'est un, le rapport peut-être à la violence ou le truc de un peu l'élite qui veut pas que y ait de... Alors qu'en fait, le rapport à la violence, bien sûr que si, dans des, d'autres formes d'art comme la littérature ou quoi, il y a de la violence, du coup, ah bah de poids, de mesure. Mais surtout, évidemment, on pense que... Enfin, moi, ce que je pense, c'est que c'est un rapport avec la question de classe, la bourgeoisie, la, le côté populaire, en fait, des jeux vidéo, le côté grand public où tout le monde joue aux jeux vidéo, en fait. La moitié des gens en France jouent aux jeux vidéo.
Et évidemment. Il y a, enfin, il y a une distinction de leur côté à dire « je ne joue pas aux jeux vidéo », vraiment une distinction de classe.
Exactement. Pour Marcel Mauss, qui dit, par rapport à la définition de ce que c'est que l'art, il dit « un objet d'art, par définition, est l'objet reconnu comme tel par un groupe ». C'est pourquoi les collections de production artistique peuvent être classées et appréciées diversement selon les cultures, les auteurs, les institutions, les époques, etc. Et évidemment, les classes, du coup. En fait, c'est la classe bourgeoise qui va dire c'est quoi l'art, c'est quoi...
Bah c'est, ouais, c'est Bourdieu, le bon goût. C'est la classe dominante qui décide du bon goût et du coup, qui décide du mauvais goût.
C'est ça, exactement. Moi, je pense que c'est trop... aujourd'hui en tout cas trop populaire pour être encore vraiment considéré comme un art, pas assez bourgeois et élitiste, et alors que pourtant ça brasse plein, enfin il faut quand même de l'argent pour acheter des jeux vidéo, mais c'est mais...
une console, un PC
Voilà, il faut une console, un PC, mais en attendant il y a aussi plein de trucs pour appâter les classes précaires, c'est-à-dire ce que tu parlais, les gachas, les free-to-play, les trucs voilà, on peut jouer sur mobile, donc, et je pense aussi qu'il y a un truc de c'est un art qui est trop accessible peut-être, et pas assez incompréhensible pour les classes moyennes. J'ai l'impression qu'il y a aussi dans l'art un truc de... Il faut que ça soit un petit peu pas accessible pour être considéré comme tel, quoi. Après, c'est bon.
Okay. Donc, même s'il y a des jeux vidéo qui restent quand même inaccessibles, on prend League of Legends, où
c'est clair.
C'est inaccessible au premier abord. Oui, mais c'est complet. Je comprends ce que tu veux dire. C'est l'accessibilité dans... C'est pas faire du violon, où il te faut un instrument et il te faut un prof. Là, c'est vraiment, il te faut juste un ordi qui tourne à peine et tu peux lancer League of Legends et c'est parti, quoi.
C'est ça. Et en fait, la formation, elle se fait entre pairs. Elle se fait pas par des experts. Oui.
En plus,
tu vois. Je disais, pour moi, du coup, c'est une forme d'art. Enfin, après, bon, je suis pas du tout objectif, mais c'est une forme d'art un peu incroyable parce que c'est une manière de. Enfin, c'est le cinéma, mais où t'es dedans et c'est toi qui contrôle. C'est immersif. Évidemment, avec plein de nuances différentes, parce qu'il y a des fois, enfin, il y a plein de codes, il y a plein de trucs qui sont redondants, il y a plein de. Mais moi, j'ai jamais eu autant d'émotions devant une autre forme d'art que le jeu vidéo, en fait. Même si je pleure facilement devant des films, bah, en fait, les jeux vidéo, je pleure encore plus facilement, je pense.
Ouais. Et je suis entièrement d'accord. Et il y a aussi le fait qu'il a ses propres termes à lui, par exemple le terme de gameplay, du coup la sensation de jeu qui n'existe pas dans les autres arts. Il peut y avoir l'immersion dans du cinéma ou de la musique par exemple, où on sent ce que l'auteur ou l'autrice voulait nous transmettre, mais on n'a pas la main dessus.
C'est ça.
Contrairement aux jeux vidéo où on a vraiment la personne qui crée ce média culturel nous invite vraiment dans son monde à naviguer dedans et à se rendre acteur de cet art.
Et comme tu disais, le gameplay, je trouve que ça donne une sensation en plus qui existe nulle part. C'est-à-dire, des fois, en fonction de ton incarnation de personnage ou machin, tu vas avoir vraiment des sensations particulières. C'est-à-dire, je sais pas, tu voles, t'as la sensation de voler. Enfin, il y a des trucs de fou. Je me souviens de Spider-Man 2 quand j'avais 12 ans, mais c'était genre incroyable. Enfin, genre, j'avais vraiment des sensations extrêmement puissantes avec ce jeu parce que du coup, t'incarnais vraiment des sensations de balance avec tes toiles quand t'étais Spider-Man. Enfin, c'était fou, quoi. Enfin, vraiment, la sensation.
Je me souviens, c'est retenir ma respiration quand je saute de l'Empire State Building.
Ouais.
Je fonce vers le bas, là, comme ça, c'est trop stylé.
En tout cas, niveau émotionnel, c'est très, très intense. Niveau beauté, enfin, il y a des univers magnifiques. Niveau musical, enfin, je suis désolée, moi j'écoute énormément de musique de jeux vidéo, c'est fou ce qui se produit aussi en fait en termes d'innovation musicale, enfin c'est incroyable, c'est un univers particulier, quoi.
Ouais. Et j'imagine aussi que ça reste un art accessible à construire. Je vais limiter mes mots, mais il suffit d'un PC, contrairement à par exemple le cinéma où il faudrait une caméra, un micro, un plein de trucs. Là, pour un jeu vidéo un peu basique, il te suffit d'un PC.
Exactement.
On pourrait dire la même chose avec la musique, en vrai, avec la musique assistée par ordinateur. Mais,
ouais.
Mais du coup, ça reste dans le même cadre, quoi.
Ouais, carrément. Et pareil, si on parle d'architecture, pour le coup, qui est le premier art, il y avait, par exemple, Assassin's Creed, comment il s'appelait celui avec Paris, là ? Je ne sais plus, Assassin's Creed...
Unity.
Unity, ouais, Unity, c'est ça. Ouais. Vous savez, ils ont reproduit au mètre carré près Feu Notre-Dame.
Notre-Dame, oui.
Et du coup, le seul endroit où on peut revoir Notre-Dame telle qu'elle, c'est dans Assassin's Creed Unity. Quoi. C'est incroyable. Ouais, et même, donc ça, c'est une reproduction. Voilà, c'est pas une création artistique. Ils ont reproduit Notre-Dame. Mais en attendant, niveau architectural, dans le monde du jeu vidéo, c'est incroyable tout ce qu'il y a comme bâtiment, comme construction. C'est fou. Enfin, c'est vraiment fou, quoi.
Bah, c'est même un terme utilisé, l'architecture d'un jeu vidéo, de comment il est construit.
Exactement.
On pourrait dire le level design, du coup, le design d'un niveau, l'architecture d'un niveau. Ou juste un Mario de base, c'est l'architecture du niveau est vraiment millimétrée, super bien construite pour t'indiquer le jeu sans aucun tuto. Et c'est parti, quoi.
Ouais, carrément.
Toi, sur ça, en ce moment, je suis à fond sur Elden Ring.
Ah ouais, j'adore.
Exemple parfait.
Ça demande du temps pour investir le jeu.
Oui, mais c'est un jeu, pardon, très très difficile.
Exigeant. Ouais.
Très exigeant. Ouais.
C'est un peu ce qu'on appelle un die and retry. Du coup, c'est mourir et recommencer. Ou c'est vraiment le but du jeu, c'est
Faire galérer.
Ouais, c'est ça, c'est te faire galérer. Mmh. Et je te laisse.
Ah ouais, mais c'est ça, c'est évoluer dans la souffrance.
Ouais, c'est ça.
Pour ceux qui ne sont pas habitués aux Souls-like et tout ça. Moi, c'est mon tout premier, donc c'est vrai. Okay. Voilà. Mais c'est vrai que sur le level design, moi qui joue à souvent des jeux AAA, tout ça, c'est la première fois où j'ai une sensation aussi grande de vertigineuse, en fait.
Ouais.
Où tu commences dans certaines zones du jeu, voilà, c'est un jeu en monde ouvert, on a son personnage, on circule comme ça, on fait un peu ce qu'on veut. Et en fait, le jeu, je trouve, il est beaucoup sur le hasard et on va se balader pendant 10 minutes et d'un coup, on va tomber sur l'entrée d'une grotte qui a l'air toute petite. Puis en fait, il y a un passage et on découvre qu'il y a un monde souterrain et que ce monde souterrain, il est presque aussi grand que les premières zones dans lesquelles on a évolué. Et en fait, c'est un enchaînement de choses comme ça où en termes d'architecture, c'est le monde paraît autonome, vivant et paraît avoir sa propre vie. Et le jeu, il donne bien ce sentiment-là. Donc voilà.
Moi, je pense à... Moi, j'ai rarement eu autant d'émotions avec Zelda Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild, mais je préfère encore Tears of the Kingdom. C'est l'univers incroyable, l'exploration incroyable, un monde immense, ça te fait des sensations complètement folles. Tu passes d'univers en univers, c'est magnifique. Et l'histoire, j'ai pleuré à chaudes larmes, quoi, genre à plein de moments, vraiment, alors que c'est un truc un peu pour les bébés.
Ouais,
je suis un peu un gros bébé. Ouais.
Il y a de moi que ça a raison.
Ah ouais, c'est vrai, t'as raison.
Merde.
Non, mais genre, c'est hyper... Enfin, je sais pas, t'as plein de jeux comme ça où les moments où j'ai le plus observé du beau dans ma vie, c'est dans les jeux vidéo. Et genre, j'ai souvent, par exemple, des souvenirs qui se passent ou des rêves qui se passent dans des jeux vidéo. Je rêve d'endroits dans des jeux vidéo ou de bâtiments dans des jeux vidéo. C'est des univers... C'est extrêmement sous-coté. Ouais.
c'est là aussi où je trouve, dans ce travail de level design sur l'architecture, la question de l'atmosphère de chaque zone dans laquelle on progresse jusqu'à la zone finale en général, un boss ou quoi que ce soit. Mais le travail sur l'atmosphère, c'est aussi quelque chose qui est énorme, en fait.
Ouais.
Sur le travail sonore, la manière dont on a des points de lumière qui nous guident dans les bâtiments ou dans les espaces, il y a une pensée quand même de l'espace qui est unique au jeu vidéo, qui est un peu totale.
Mais c'est ça, c'est une pensée totale. Enfin, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un art incroyable, parce que c'est tout est pensé, en fait. C'est un univers entier, reproduit, nouveau, et des fois avec un monde complètement à part entière. Enfin, désolé, mais les mondes de Heroic Fantasy, Skyrim ou des trucs comme ça, Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu ça, mais version jeu vidéo. Chaque personnage a une histoire enfin, c'est fou, quoi. Genre,
tu prends des jeux même comme Baldur's Gate où on parle purement en termes d'écriture, où c'est un univers complètement infini, où toutes les possibilités sont possibles, où quoi que tu fasses, tu auras une interaction plus ou moins différente, mais en tout cas qui oriente comment tu vas jouer et comment tu te comportes et que tu retrouveras plus tard, parce que tout choix a des conséquences, mais en même temps, tu peux toujours t'adapter à comment tu agis. Il y a un niveau d'écriture qui est rarement atteint.
Ouais. C'est ça, l'écriture. Et du coup, il y a aussi plein de... moi, j'ai plein de fois me suis posé des questions à partir de questions qui se posaient dans des jeux vidéo, des trucs philosophiques. Enfin, vraiment, c'est extrêmement riche. Et juste aussi, je voulais rajouter ce truc de... En plus de ça, c'est un art qui est accessible aux petits. Et je trouve ça trop bien. Genre Minecraft, incroyable. Je trouve ça incroyable, le fait que Minecraft, tu joues à partir de 7 ans. Je trouve que les gamins de 7 ans, ils sont hyper doués sur Minecraft parce que c'est à la mode à fond à cet âge-là. Et du coup, ils font des trucs incroyables. Et ils font des créations, au final, artistiques. vraiment, mm-hmm. qui peuvent être incroyables et magnifiques. Et il y a des choses qui se passent sur Minecraft, parce que c'est un espèce d'univers parallèle, Minecraft. Donc, qui a un truc artistique un peu, je veux dire, c'est particulier parce que c'est un monde de cubes, on aime ou on n'aime pas, mais si on aime, ça peut être mais magnifique, magnifique. Et, je trouve que, et ça peut être créé par un gamin de 8 ans, un univers que tu découvres. Enfin voilà, je trouve ça fou.
C'est vrai que l'accessibilité aux jeunes, c'est assez particulier aux jeux vidéo aussi. Où, ouais. Effectivement, c'est un accès à l'art plus facile parce que foutre un pinceau dans les mains d'un enfant, ça fait pas forcément des tableaux de fou. Or, il y a des génies, mais. Mais dans un jeu vidéo, c'est plus accessible, ouais. alors qu'ils peuvent jouer à des jeux de fous ouais. plus facilement. Quoi.
Évidemment, après, je pense que c'est comme dans le cinéma, il y a des trucs qui sont plus ou moins intéressants, oui. nanani, nanana. Évidemment, mais par contre, il y a des formes de création qui sont incroyables. Quoi. Ouais,
C'est comme dans la littérature, il y a Kafka, il y a Yann Moix. Hein.
mais c'est exactement ça. Il y a tout un éventail, quoi. Exactement. Et puis après, tu as tous les jeux indés ou les trucs un peu conceptuels. Enfin, en fait, c'est un monde incroyable. Donc, merci Yann Moix, en tout cas, ouais, pour tout ça. Merci Yann Moix, trop sympa. Moi, je l'adore. Hein. Du coup, on passe aux actus en ce moment. Bientôt.
Du 11 au 13 avril.
Ouais, du 11 au 13 avril, c'est le festival Furax.
C'est ça. Donc, c'est à l'initiative des créateuristes de contenu et aux côtés d'un groupe de militantes engagées. Furax, c'est l'envie de faire bouger les choses à leur niveau par le streaming et les communautés en ligne.
Ouais, c'est ça. Donc c'est à la fois une asso, c'est un festival.
C'est un événement caritatif.
Ça se passe sur Twitch. Mm-hmm. Et c'est pour, en gros, lutter contre le cyberharcèlement et le sexisme.
C'est
et,
ça. Du coup, ils disent Furax, c'est une célébration des combats à la manifestation d'une détermination sans faille pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes et le harcèlement en ligne.
C'est ça.
C'est un espace pour soutenir, éduquer, soigner et célébrer.
C'est ça. Trop bien.
On leur envoie de la force.
Ouais, on leur envoie de la force. Et il y avait aussi là, mais je crois que ça continue aujourd'hui, mais je suis pas sûre. Mais du coup, pour le 8 mars, il y avait Afro Gameuse qui faisait un événement qui s'appelait Gaming Queens. Mais moi, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait un stream aussi. Donc j'imagine qu'elle continue un petit peu aussi cette semaine à faire des streams autour de ce sujet. Donc c'était pour le 8 mars et du coup pour la lutte contre le sexisme, etc., etc. Et Afro Gameuse, on en a déjà parlé, mais du coup c'est un collectif, ça parle de soi-même, hein, c'est un collectif féministe, afro-féministe de gameuses qui se retrouvent et qui sont sur Twitch et qui font plein de choses qui sont super. On est Furax et maintenant on passe aux recommandations puisqu'on n'a plus beaucoup de temps en fait.
On a plus beaucoup de temps.
Alors les recommandations, Quentin, t'as des recommandations ?
Alors ouais, moi du coup il faudra se lever tôt demain, mais demain matin à 9h il y a...
C'est pas si tôt hein.
c'est dimanche quand même.
Moi,
on n'a pas
enfant.
Tous un bébé. Ouais,
j'ai un bébé ça. Moi en fait.
Et oui, demain matin donc à 9h il y a l'équipe de League of Legends Karmine Corp qui joue la première finale mondiale de son histoire dans une compétition mondiale. Donc je vous invite, même si vous comprenez pas l'heure, juste passer 5 minutes pour voir Kamito hurler de bonheur, ça rend toujours heureux.
Donc c'est sur le jeu vidéo League of Legends, LOL.
C'est ça. Toi, équipe française Camille Corp.
Voilà, c'est ça. Et on avait parlé, t'avais fait une chronique sur la Camille Corp.
Ma toute première chronique, ouais. C'était sur la Camille Corp.
Parce que du coup, toi, t'es fan de la Camille Corp.
Oui, oui, c'est ça.
Tu les adores.
Oui, je les adore. J'aime beaucoup. Et ils sont trop forts. Et c'est un vrai projet. Vous pouvez réécouter la chronique, mais c'est un vrai projet différent et vraiment de passionné. Pour créer un futur de l'e-sport. Et je me dis que si c'est la tête pensante, la future tête pensante de l'e-sport, c'est Kameto, c'est que ça part dans la bonne direction.
Oui.
Parce que la plupart des équipes, je vous la fais très court, mais elles sont financées par des grandes boîtes d'immobilier qui n'ont rien à foutre, qui sont en mode l'investissement. Alors que là, la Karmine Corp, c'est porté par Kameto. C'est financé à plus de 50% par Kameto. Du coup, ça lui appartient. C'est lui qui a les prises de décision. C'est lui qui dirige où tout va. Il est forcément entouré d'une équipe et d'ailleurs c'est très beau à voir, ils sont tous mis en avant.
Ouais, et ils sont autofinancés quoi presque.
Il y a quand même des sponsors et tout comme dans le monde du sport en général, mais en tout cas c'est lead de manière solo et les choix purs sont signés par Kameto et c'est très beau à suivre. C'est
trop bien.
Ouais. Comme lui, il le met dans sa page Twitter, il emmène la misère en balade et c'est trop beau de voir ça.
Alors c'est vrai que League of Legends, c'est un peu un jeu compliqué à comprendre, ouais. mais en même temps, ben, on comprend les émotions quand ouais. les gens crient, ouais, quand ils sont contents ou pas contents, donc ouais. Ça peut être cool aussi, même on si comprend
dans
rien.
Le, ouais, dans le bruit de pixels, au bout d'un moment, il y en a moins, on sait qu'il y a une équipe qui a gagné sur l'autre et c'est parti.
c'est ça. Donc ça peut quand même être... même moi je comprends rien hein, ouais. à LOL, mais je pense que je pourrais regarder quand même quoi.
Il y a des chaînes comme OTP LOL qui sont des chaînes de streaming purement sur LOL qui expliquent un peu ce qui se passe.
De toute façon il y a des commentateurs pour des compétitions comme ça, donc ils commentent, ils disent là il s'est passé ça, ouais. là c'est nul parce que machin, ouais. Trop bien. Toi t'as des recommandations?
Une recommandation, un jeu auquel j'ai rejoué récemment qui est très plaisant, ça s'appelle Les Aventures Extraordinaires de Captain Spirit. C'est la boîte de production, d'édition, qui a fait Life is Strange.
Ah ouais, ok. Voilà.
Et ça se joue comme une nouvelle, un jeu très très court qui dure 2 heures, qui est gratuit d'ailleurs, et dans lequel on incarne un enfant qui vit dans une ville, peut-être une toute petite ville aux États-Unis, dans le nord des États-Unis. En tout cas, c'est un moment où il neige beaucoup. Et pour fuir un quotidien difficile, il se raconte beaucoup d'histoires, et notamment qu'il est Captain Spirit, et donc qu'il va avoir plein d'histoires autour de sa maison.
Trop stylé.
Et non, c'est un jeu très doux, et avec une BO signée Sujan Stevens, donc encore plus doux. Et voilà, si vous avez l'occasion, foncez.
Trop bien. Trop cool. Redis, tu sais.
Les aventures, The Awesome Adventures of Captain Spirit.
Ok.
Je pense sur Steam, si je ne dis pas de bêtises, sur Steam il y est directement.
Trop bien.
Gratuit, trop cool.
Et moi j'ai deux petites recos de jeux qui sont les deux gratuits. Et c'est un peu pour le 8 mars, parce que c'est des jeux qui sont féministes. Le premier c'est Daiki Street. Ça a été conçu par un collectif qui s'appelle Daiki, D-I-Y-K-E, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis en train de dire. C'est un collectif féministe et queer. Et c'est juste un petit jeu que tu fais en 2 secondes, mais c'est rigolo, où en fait c'est en mode rétro, tu vois. Et tu te balades et tu vas... en fait, il y a des collages sexistes un peu de partout. Enfin, il y a des pubs sexistes, il y a plein de trucs sexistes, machin. Et du coup, toi, t'es pas très contente, t'es Daiki et tu vas mettre des affiches féministes et tout un peu de partout dans la rue qui vont se mettre par-dessus les trucs sexistes.
En mode gros défouloir.
Ouais, c'est ça, c'est rigolo. C'est un mini-jeu que tu fais en 2 secondes, mais c'est rigolo. Et il y en a un autre qui s'appelle Fight Back, qui a été fait par Céline Tricard. Dedans, il y a les voix d'Adèle Haenel, Aïssa Maïga et Camélia Jordana. Et en fait, c'est un espèce de cours de self-défense féministe en mode VR. Où en gros, vraiment, avec une histoire où tu combats des ombres, etc., etc. Mais où ça t'apprend des gestes d'autodéfense. Et tu vas, au fur et à mesure, quand tu t'es formé un peu, délivrer tes sœurs qui ont été agressées, machin. C'est ça, et capturées, etc. Et tu vas en plus découvrir des histoires de femmes guerrières qui ont marqué l'histoire, en gros. Donc voilà. Donc c'est des petits jeux comme ça. Il existe plein de petits jeux gratuits féministes. Court souvent parce que c'est des petits formats qui ont
développements avec peu d'argent en général.
C'est ça. Mais j'aime bien ce genre de petits jeux là, c'est juste agréable et accessible en plus à des gens qui connaissent pas le jeu vidéo. C'est des petits jeux accessibles qu'on peut faire rapidement, donc c'est plutôt cool. Voilà. Est-ce qu'on a un truc à rajouter? De toute façon, on est pile une heure. Oh mon Dieu, on n'a jamais été aussi...
On a 15 secondes.
Ponctuel. 1h, 15 secondes. Bon, on peut dire au revoir.
Ouais.
Bisous à tout le monde.
Merci beaucoup à Marie.
Merci Marie, à la régie. Merci encore une fois de faire la régie.
C'est
super.
Oui, c'est trop
forte. Merci, c'est trop forte.
Et gros bisous à Adrien.
Ouais, bisous à Adrien qui n'est pas là, qui ne peut pas, mais qui nous manque énormément et qui reviendra bientôt. Gros bisous.
Gros bisous.
Spectre.